Bonjour Immaculée, que Dieu vous bénisse, bienvenue parmi nous. Je crois que je ne vois pas tout le monde ce matin, donc juste écrire un petit mot dans la zone de commentaires et on pourra vous saluer de façon appropriée. Bonjour Lucie, que Dieu vous bénisse. Bonjour Sharon, que Dieu vous bénisse, bienvenue parmi nous. Si je ne m'abuse, vous nous regardez depuis la belle ville de Babi, Abidjan, si je ne m'abuse. C'est bien ça? Une belle ville que j'ai eu l'occasion de visiter une seule fois, mais j'en garde très très bons souvenirs. Et j'ai de très bons amis qui viennent de Côte d'Ivoire. Merci Lucie. Bonjour Marie-Huguette. Et comme je ne l'ai pas fait cette semaine, donc je salue Leïka et Gaël. C'est très content de te voir dimanche. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour à Marie-André et à Farley, notre ami. Ma seule tristesse. De mon passage en Côte d'Ivoire, hormis le fait que c'était trop court, c'est que malgré tout ce qu'on m'en avait dit, je n'ai pas eu l'occasion d'aller visiter l'Allocodrome. Donc je me promets de retourner à Babi pour aller visiter l'Allocodrome. D'ici là, je me fais l'Alloco à la maison moi-même. Mais très content que vous soyez avec nous ce matin. Soyez bénis, Sharon. Bonjour Rosie, que Dieu vous bénisse. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Rosie, vous avez tout un jardin avec tous les légumes, tous les fruits. Et de surcroît à ça, vous avez aussi des noix. J'espère pouvoir vous visiter un jour et voir ce beau jardin dans lequel vous travaillez avec acharnement. Bonjour Janine. Que Dieu vous bénisse, bienvenue parmi nous. Alors aujourd'hui, on continue à parler sur la pêche miraculeuse. On va étudier aujourd'hui, toujours dans le chapitre 5 de Luc, et on va étudier des versets 7 et 8. J'ai 11 points à partager ce matin, donc j'ai calculé que j'avais environ 2 minutes 30 par point. On va essayer de passer à travers tout ça sans perdre trop de temps, mais en étant en même temps, sans perdre trop de temps, en étant en même temps. Ça fait beaucoup de temps, ça. Sans perdre trop de temps, mais toujours en expliquant du mieux qu'on peut ce passage. Mais je crois que vous allez être bénis encore ce matin. Pour ceux qui prennent des notes, je vais aller vite ce matin, donc il va peut-être falloir que vous réécoutiez en différé ou en reprise cet enseignement. Bonjour Guy, sois béni. Et au tout début, j'ai une annonce à vous faire. Ah, Farley, je suis content que tu sois là. Effectivement, la panne Rosie était mondiale. Bonjour à Jean-Gilbert et à Ozani. Bonjour à ma belle-mère. Ça va bien, la belle-mère? Que Dieu vous bénisse. Donc, mercredi 6 octobre, deux rendez-vous aujourd'hui. On vous rappelle qu'il y a l'étude biblique ce soir et que l'étude biblique est non seulement en ligne, mais aussi en formule présentielle. Donc, si vous voulez être à l'église ce soir, pas besoin d'inscription. C'est donc de 19h à 20h, tant sur Internet qu'en présentiel dans nos locaux ici à Montréal. De surcroît à ça, on vous rappelle que toutefois pour l'assemblée de dimanche, les inscriptions sont encore en vigueur. Donc, vous pouvez vous inscrire par les voies habituelles, courriel ou message vocal sur la boîte vocale de l'église. La première vague de confirmation va avoir lieu ce soir. Bonjour Myriam, bonjour Donald. Toujours un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour Yolaine. Heureux que tu sois là malgré les inconvénients et malgré les douleurs, mais bien heureux que tu sois là, en espérant que de nous écouter te fait du bien. Bonjour Sylvie, soyez bénie. Aujourd'hui, Rosie, c'est à peu près la même température pour nous, mais c'est beaucoup de... comment on appelle ça? C'est nuageux. Voire même il y a de la brume, une brume épaisse en fait, un brouillard épais. Ce matin à 5 heures, on voyait à peine à 50 mètres devant nous. Donc c'était très épais. Bonjour Rachel, bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi. Bonjour la sœur Argelia, donc les sœurs qui sont connectées avec Rachel. C'est Chantal, Mona, Ocilia. Bien le bonjour, que Dieu vous bénisse toutes trois. Bonjour Daniel, content que tu sois avec nous ce matin. Sois béni. Est-ce que j'ai salué la sœur Argelia? Oui, je pense que oui. Mais je la resalue de nouveau. Voilà. Ça fait quelques jours que je ne voyais pas son nom apparaître. Donc, bien heureux de vous avoir avec nous, sœur Argelia. Merci la belle-mère, soyez bénie. Donc là j'ai le choix, la banane, la cerise, les raisins, la tomate, la fraise, le melon d'eau, l'ananas et l'avocat. Donc je suis repu pour le restant de la journée. Bon, il y a le cœur aussi. J'espère que la banane est un peu verte. Hein. Là, je la vois très jaune. Bon, mais il n'y a pas de tache dessus, on dirait. Donc, ça devrait aller. Mais elle est un peu trop jaune malgré tout pour moi. Il faudrait un peu plus de vert. D'accord, alors on va débuter simplement. Je vous avais dit qu'en tout début, je vous donnerai une annonce. La petite famille des bénédictions matinales et de l'EAJC est en deuil aujourd'hui. Vous savez, ça a été annoncé hier sur la page Facebook de l'Église, l'époux de notre sœur Pascale, pour qui on a prié beaucoup depuis déjà plusieurs mois, voire quelques années, même ça fait environ 2 ans qu'il était malade. Donc son époux Gabriel est parti avec le Seigneur à travers la journée d'hier. Donc on vous invite à prier pour la sœur Pascale, pour leur fils Jean-Bernard, un jeune homme, un jeune adulte. Et c'est difficile assurément pour eux deux. Gabriel avait tourné son cœur vers le Seigneur à travers les derniers mois et les dernières semaines. Pascale nous dit qu'il a effectivement confessé que Jésus était son Seigneur. Donc on n'a pas de doute qu'aujourd'hui, il se trouve dans la présence de Dieu, dans la présence de son Seigneur. Mais on veut prier donc pour la sœur Pascale. On veut prier aussi pour Jean-Bernard, que ce soit un temps où ils peuvent expérimenter la grâce de Dieu, la douce présence du Seigneur et expérimenter aussi l'amour qu'on a au sein du corps de Christ. Donc, je vous invite à ne pas les oublier, à ne pas omettre de prier pour eux à travers les prochains jours. Les obsèques auront lieu à l'église dans peu de temps. J'aurai plus d'informations plus tard pour passer ou à passer. Mais d'ici là, on va prier donc pour commencer cette rencontre. Et on va aussi prier pour notre sœur Pascale et pour Jean-Bernard, le fils de Pascale et Gabriel. Seigneur, nous tournons vers toi ce matin, heureux de ce que tu nous permets de plonger nos regards dans ta parole, heureux de ce que tu nous donnes l'occasion, encore une fois, de nous rassembler pour étudier, méditer ta parole et être façonnés et transformés par elle. Et nous savons, Seigneur, que pour aujourd'hui, tu auras effectivement la parole dont nous avons besoin. Toutefois, Seigneur, nos cœurs sont aussi attristés et se joignent à notre sœur Pascale et à Jean-Bernard, son fils, suite au décès, Seigneur, de Gabriel. Nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main et de toucher notre sœur Pascale, de toucher Jean-Bernard, de les entourer, Seigneur, de ta grâce. Assurément, c'est des moments, Seigneur, terribles qu'ils ont à traverser. Pour le moment, des moments, Seigneur, remplis d'interrogations, remplis de larmes et de douleurs. On se réjouit, oui, de ce que Gabriel a eu à confesser ton nom et te reconnaître comme son Seigneur et son Sauveur. Alors nous avons, Seigneur, cette assurance qu'il est avec toi, dans ta présence pour l'éternité. Mais notre sœur se retrouve seule. Jean-Bernard, Seigneur, a perdu son papa. Nous te demandons donc, Seigneur, d'étendre ta main et de les accompagner. Permets-nous aussi, en tant qu'Église, de pouvoir les soutenir, de pouvoir les accompagner. Et ne serait-ce que par nos prières, et les mots, Seigneur, qu'on peut partager avec eux, que ce soit, Seigneur, l'occasion de témoigner la grâce, l'amour et la fraternité, Seigneur, qui existe dans ton corps. Alors, Seigneur, aujourd'hui, étends ta main, touche Gabriel, touche Pascal. Aujourd'hui, étends ta main, Seigneur, touche Jean-Bernard. Et qu'il puisse vraiment, Seigneur, expérimenter le réconfort, la paix et la consolation ineffable qu'on peut trouver en toi. Alors merci Seigneur de prendre soin d'eux. Prends soin de nous Seigneur dans ce moment aussi. Inspire-nous, dirige-nous et conduis-nous. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors je lis pour vous le passage dans Luc 5 du verset 1 au verset 11. Puis je vais relire le verset 7 et 8 qui nous servent de méditation pour aujourd'hui. Le verset 1 dans Luc 5 nous dit « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Je répète les versets 7 et 8. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. J'ai 11 points ce matin, donc on va essayer de le faire vite. J'ai calculé que j'avais environ 2 minutes et demie pour chacun des points. Donc on va essayer de ne pas perdre notre attention. Je vais y aller vite ce matin. Vous aurez l'occasion de revisionner cet enseignement si vous prenez des notes. Alors le verset 7 commence en disant « Ils firent signe à leurs compagnons ». On se rappelle, la pêche miraculeuse est en cours. Jésus a dit à Simon de jeter son filet ou de jeter les filets. Et Simon dit, on a pêché toute la nuit, on n'a rien attrapé, il ne s'est rien passé. Mais puisque c'est toi qui le dis, puisque tu m'en informes, Seigneur, alors oui, effectivement, je vais jeter mes filets. Et là, il jette les filets. Et la Bible nous dit au verset 6 qu'après l'avoir jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et que leur filet était si rempli qu'il allait se rompre. Et là, Pierre va faire un signe à ses compagnons. Donc, ils firent signe à leurs compagnons, verset 7. Une chose qui est importante ici est de comprendre que la bénédiction ne se garde pas pour soi. Pierre aurait pu dire, regardez, les autres barques n'ont pas obéi à Jésus. C'est nous qui avons obéi. C'est nous qui avons jeté le filet. Donc, on va garder ça pour nous. Si les autres avaient été obéissants, ben, ils l'auraient eu aussi. Ou si les autres, Jésus avait décidé de monter dans leur barque, ben ça serait à eux la pêche. Mais là, c'est à nous. Pierre n'a pas cette attitude-là. Il fait signe à ses compagnons. Et la morale pour nous, ou l'enseignement pour nous, est de savoir qu'il nous faut partager la bénédiction et les fruits de la bénédiction. Parfois, on travaille pour Dieu, il y a des fruits qui arrivent et on veut garder ces fruits pour nous. On veut s'isoler et on veut même protéger les fruits et les bénédictions de nos frères et de nos sœurs parce qu'on se dit c'est nous qui avons travaillé, c'est nous qui avons œuvré, c'est nous qui avons fait le boulot. Alors pourquoi on viendrait prendre ces fruits-là? Pierre n'a pas eu peur, il a appelé ses compagnons. Donc là, on doit apprendre à partager la bénédiction et les fruits. La pêche miraculeuse, c'est une moisson d'âme. Et peu importe qui aura jeté le filet, cette moisson d'âme aussi doit être partagée. Et on doit accepter ce principe du partage de la bénédiction et des fruits. Alors, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque. La morale ici, c'est qu'il n'y a pas de rivalité dans la pêche miraculeuse. Parfois, on dit, voici mon territoire, je l'ai travaillé, je l'ai préparé, j'ai fait le pas de foi, j'ai fait l'action, j'ai fourni l'effort, alors ce territoire m'appartient. Pierre va faire signe à ses compagnons qui sont dans l'autre barque. Pierre ne s'est pas dit, ben nous simplement dans notre barque, on va en profiter, on va faire un clivage entre nous et avec ceux qui sont dans l'autre barque. Non, dans le corps de Christ, face à la bénédiction et face au travail, il n'y a ni clan ni division. Alors faisons attention à comment on se comporte. Faisons attention, on peut être en train d'aller pêcher pour le Seigneur, on peut être en train de recevoir les bénédictions et les dividendes de notre travail, mais on peut effectivement avoir cet esprit de division, cet esprit de clan qui est tout à fait malsain et inapproprié dans le corps de Christ. Donc, Pierre n'a pas regardé les gens dans l'autre barque comme étant des gens qui allaient venir leur voler les poissons, mais il a vu des gens qui, eux aussi, pouvaient contribuer et collaborer et profiter de la grande et merveilleuse pêche miraculeuse. Donc oui, faisons attention à ne pas faire de clan ou de division au sein même de l'Église. Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Ça, c'est un problème qui arrive souvent, plutôt chez les gars. Ça semble être une problématique plus masculine, bien que ce ne soit pas tout simplement masculin. Il y a aussi des dames qui ont de la difficulté dans cet autre point. Pierre est là avec une tâche énorme de remonter le filet qui est trop chargé, la pêche qui est trop grande pour un seul homme et pour une seule équipe, pour une seule barque. Alors Pierre fait appel à ses compagnons pour venir les aider. Dans le corps de Christ et dans la pêche miraculeuse, il ne doit pas y avoir de peur quant à demander de l'aide. On doit effectivement être prompt à demander de l'aide. Et comme je dis, c'est souvent une difficulté chez les hommes, davantage que chez les dames, mais c'est pas exclusivement, comme je l'ai dit, pour les hommes. Il y a aussi des dames qui ont de la difficulté à demander de l'aide, qui préfèrent se débrouiller tout seules, qui préfèrent faire les choses par elles-mêmes. Mais la Bible nous demande, nous invite dans ce sens-là et dans la morale de ce passage à ne pas avoir peur à demander de l'aide. Nous travaillons tous pour une même cause. Très souvent, lorsqu'on ne demande pas de l'aide, c'est parce qu'on s'approprie cette moisson, cette récolte ou cette pêche, comme dans le cas de cette histoire. Et on pense que c'est notre pêche, que c'est notre récolte, que c'est notre moisson. Nous sommes des ouvriers pour Christ. Nous sommes des ouvriers dans la moisson de Christ. Nous sommes des ouvriers face à la récolte de Christ. Nous sommes des pêcheurs dans l'entreprise de pêche de Christ. Alors, ces résultats, si on se concentre juste sur nous, on va peut-être se faire un bon nom, on va peut-être, aux yeux des hommes, avoir la popularité de celui qui a ramené la plus grosse prise, mais face à Dieu, il est tout à fait conscient que parce qu'on n'a pas demandé de l'aide, il y a une partie des poissons qui ont fui le filet, une partie des poissons qui se sont éclipsés parce qu'on a été trop orgueilleux pour demander de l'aide. Alors, dans le corps de Christ, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Tout à l'heure, je citais le verset quand on allait prier pour Pascal et Jean-Bernard, la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et c'est souvent facile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent parce que quand je suis content, j'exulte, je dis pourquoi je suis content, les gens l'entendent et partagent ma joie. Lorsque je suis triste, lorsque je suis mal en point, très souvent je vais tomber dans un état de mutisme où je vais beaucoup moins parler. Et ce faisant, je l'ai appris à quelques années, j'ai compris cette notion il y a quelques années, lorsque je ne laisse pas voir mon besoin, lorsque je ne partage pas mes larmes, et là je dis pas de s'effondrer devant tout le monde constamment, tout simplement pour se faire plaindre, mais pour que les gens puissent pleurer avec nous, encore faut-il leur permettre de voir que nous pleurons. Donc, il y a un travail aussi de celui qui est dans un mauvais, dans une mauvaise phase, de pouvoir demander de l'aide, de pouvoir permettre aux autres de l'aider, de pouvoir permettre à l'Église, à la famille de Christ, de pleurer avec nous qui pleurons. Donc, en troisième point, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Toujours dans le verset 7, lorsque Pierre appelle les autres parce qu'ils ont besoin d'aide, la Bible nous dit, il continue, et ils virent, donc les compagnons vinrent plutôt, et ils vinrent. Parfois on nous demande l'aide, mais on n'apporte pas de l'aide. Donc c'est une chose de demander de l'aide, et c'est une autre chose que la personne à qui on a demandé l'aide vienne nous aider. Donc dans le corps de Christ, il nous faut apprendre aussi à assister celui qui a besoin d'aide. Trop souvent, on est égoïste. Soyons sincères, soyons honnêtes, même dans le corps de Christ, on a encore des changements et des transformations à se voir, à voir éclore chez nous. Oui, on a besoin d'apprendre à demander de l'aide, mais on a aussi à apprendre à apporter de l'aide, savoir donc assister celui qui a besoin d'aide. Jacques et Jean auraient pu dire, hey, regarde, là, c'est toi qui as voulu retourner à la pêche, c'est toi qui as voulu prêter ta barque à Jésus, c'est toi qui as obéi au fait qu'il te demandait d'aller en mer une fois de plus alors qu'on avait déjà passé la nuit, qu'on avait nettoyé nos filets, donc débrouille-toi. Ça n'a pas été l'attitude de Jacques et de Jean, les associés de Pierre, non. Ils ont été vers leur ami, vers leur compagnon, vers leur collègue pour l'aider, pour l'assister, parce que Pierre en avait besoin. En point numéro 5, on nous dit qu'ils viennent aider et qu'ils remplirent les deux barques. Ils remplirent les deux barques. Pensez un peu, il y a une grande pêche. Le filet est en train de se rompre. Les gens viennent et que se serait-il passé s'ils avaient tout simplement rempli la barque de Pierre? Ben, nous qui connaissons la fin de l'histoire, puisqu'on sait ce qu'ils n'ont pas fait, qui aurait été de remplir strictement la barque de Pierre, non, ils ont rempli les deux barques. Ça veut donc dire que dans la collaboration, c'est toujours dans le but de chercher le toujours mieux. C'est toujours dans le but d'apporter encore plus d'effet ou d'avoir encore plus d'effet, d'avoir encore plus d'efficacité. La collaboration dans le corps de Christ, c'est pour amener dans la barque une plus grande quantité de poissons, voire même jusqu'à ce qu'on puisse, on puisse même avoir deux barques pour avoir le double de la récolte, le double de la pêche, le double de la moisson. Donc notre collaboration est toujours en quête d'un toujours mieux. Comment pouvons-nous mieux faire les choses? Comment pouvons-nous être plus efficaces pour Jésus? Comment pouvons-nous être plus à point par rapport à l'appel et à l'œuvre à laquelle nous sommes destinés? Donc avoir cet esprit en nous de collaborer afin d'être encore plus efficaces. Point numéro 6. Toujours dans ce verset, ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'ils enfonçaient. La réussite comporte aussi des risques, des dangers et des aléas. Dans ce cas-ci, on est en train de remplir les deux barques et les deux barques commencent à s'enfoncer dans l'eau, commence à être trop lourde pour se maintenir en surface. Et certains auraient dit, non, mais arrêtez là, ne prenez plus de poissons, laissez les autres partir parce qu'on va couler. Non, ça n'a pas été l'attitude. Ils ont rempli les barques, même si les barques semblaient faibles, même si les barques semblaient inadéquates pour cette pêche miraculeuse, ils ont quand même fait leur travail. Et pour nous, en point numéro 6, c'est faire notre travail même si on ne se sent pas à la hauteur. Faire notre travail même si on sent que ce que nous avons n'est pas à la hauteur du travail, de la mission et de l'appel qui nous est lancé, notre réponse par rapport à l'appel, ce n'est pas de savoir suis-je à la hauteur ou ne suis-je pas à la hauteur. Soyons très très clairs tout de suite, nous ne serons jamais à la hauteur. Et nous ne serons jamais à la hauteur pour une raison toute simple. Je crois que Dieu fait exprès pour qu'on soit toujours dépendant de lui, pour qu'on soit toujours en nécessité de son aide et son assistance, pour que personne d'entre nous n'ait le sentiment d'avoir été inévitable ou d'avoir été celui duquel Dieu ne pouvait pas se priver. J'ai été le coup de pouce que Dieu avait besoin. Dieu n'a pas besoin ni de toi, ni de moi pour faire ce qu'il a à faire. C'est une grâce qu'il nous accorde de nous appeler à une œuvre si grande, si majestueuse, si merveilleuse, en dépit de nos faiblesses, en dépit de nos limites humaines. Alors, aller au travail, faire le travail, même lorsqu'on ne se sent pas à la hauteur. On passe maintenant au verset 8 et il me reste 5 points à partager avec vous ce matin. On est dans le temps. Donc, on passe au verset numéro 8. « Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Quand il vit cela, on s'arrête juste sur cette partie-là. Quand il vit cela, ça c'est le genre de phrase sur laquelle on serait passé très rapidement et on aurait cherché le restant de la phrase pour savoir quel est effectivement l'enseignement important. Mais je crois que dans « quand il vit cela », c'est aussi une recommandation importante. Pierre a pris le temps de regarder la bénédiction que Dieu lui donnait. Quand il vit cela, savoir admirer les bienfaits de Dieu. Vous vous rappellerez, pour ceux qui sont plus anciens dans l'Église, vous vous rappellerez de cet hymne qu'on chantait, que ce soit dans « Chant de victoire », que ce soit dans « Chant d'espérance » ou d'autres volumes dans lesquels on avait des hymnes autrefois. Ce cantique qui disait « Compte les bienfaits de Dieu ». Et tu verras que le nombre en est grand. C'est bon de s'arrêter à l'occasion, surtout lorsqu'on vient de voir une pêche miraculeuse et de compter les grâces de Dieu. Quand il vit cela, c'est cet enseignement et cet appel pour nous en septième point, donc de savoir s'arrêter un instant et d'admirer ce que Dieu a fait. Parce que cette pêche, on s'entend, Pierre, Jean et Jacques et les autres ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Ils avaient fait le travail, et pourtant leur travail n'a pas porté fruit. Mais au moment où Dieu a décidé, au moment où Jésus les a appelés pour aller jeter leur filet, ils y sont allés et cette pêche s'est avérée miraculeuse. Donc le facteur différent entre ce qui s'était passé durant la nuit et ce qui se passait en cette matinée, c'était le facteur Jésus. Donc Jésus a été le facteur prédominant dans cette pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse s'est faite à cause de Jésus. Et voilà pourquoi Pierre va avoir cette attitude humble de tomber aux genoux de Jésus et de lui dire de s'éloigner parce qu'il n'est qu'un homme pécheur. Donc, mais Pierre, avant de faire tout cela, a regardé la pêche et s'est rendu compte de la bénédiction et de la grâce qui lui était fait. Et parfois, nous, on oublie ça. La pêche est tellement grande qu'on est activé à faire un tas de choses et on oublie tout simplement de prendre un temps pour admirer ce que Dieu est en train de faire. On est tellement occupé à ramener les filets, qu'on en oublie d'être reconnaissant et d'être admiratif par rapport à ce que Dieu fait. Donc, savoir compter les bienfaits de Dieu, même dans une pêche miraculeuse. Et même quand la pêche est petite, même lorsque la pêche ne suffit qu'à nourrir 2-3 bouches de la famille, là encore, ça reste malgré tout un acte de provision de Dieu pour lequel nous rendons grâce. Et voilà pourquoi traditionnellement, en tant que chrétien, on prie avant le repas, ce que l'Église traditionnelle appelait la bénédicité, je crois, qui était tout simplement de dire merci et de rendre grâce à Dieu pour la bénédiction qu'il nous donnait avec un repas. Donc, savoir compter les bienfaits de Dieu. Point numéro 8, toujours dans le verset 8, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus. Donc, après avoir vu, après avoir compté les bienfaits de Dieu, Simon Pierre tombe aux genoux de Jésus. La grâce de Dieu devrait inspirer l'humilité. La pêche miraculeuse devrait inspirer, comme ça l'a fait dans le cas de Pierre, ça devrait inspirer l'humilité. Donc ici, l'exhortation pour toi et pour moi, au verset 8, et dans le point 8 aussi, c'est d'être humble dans la victoire, d'être humble dans la pêche miraculeuse. Rappelle-toi que cette pêche ne vient pas de Pierre, ne vient pas de Jean, ne vient pas d'André, ne vient pas de Jacques. Cette pêche miraculeuse, c'est à cause de Jésus. Elle est due à Jésus. C'est lui qui amène les poissons jusque dans les filets. Donc, soyons humbles, même dans les moments d'exaltation et même dans les moments de grande victoire. Point numéro 9. Donc, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur ». Et il dit « Seigneur ». Tout à l'heure, il a dit « Maître ». Maintenant, il dit « Seigneur ». La victoire va susciter, et les trois derniers points sont importants, parce que certaines personnes ne se préparent pas à la victoire et ne se préparent pas de surcroît cela aux affres de la victoire. La victoire a des bonnes choses, mais la victoire peut aussi susciter de mauvaises choses chez nous, dépendamment de la décision que nous prenons par rapport à comment je me positionne face à la victoire. Et un des dangers qui nous guette ici, tout à l'heure, c'était, on avait le danger de devenir arrogant ou de devenir humble, et là, on doit décider face au bienfait de Dieu d'être humble, de se recroqueviller, de se mettre à genoux devant le Seigneur et de dire effectivement « Seigneur ». Et ce faisant, cette confession que Pierre fait, il apprend à être soumis dans la victoire. La victoire va susciter soit la soumission ou la rébellion. Pour une même victoire, quelqu'un va s'emporter et quelqu'un va encore davantage se mettre aux pieds de Jésus. Pour une même victoire, quelqu'un va commencer à se péter les bretelles, avoir la tête qui enfle, ou va être humble et reconnaissant. Donc, quelle va être ta décision? Quelle va être ton attitude lorsque la victoire va arriver? Et je préfère qu'on en parle aujourd'hui, avant que la pêche miraculeuse n'arrive, pour qu'on soit déjà conscient du danger qui pourrait nous guetter lorsque cette pêche miraculeuse viendrait à survenir. Il y a des choses dans lesquelles on doit se préparer à l'avance pour que lorsque le tourbillon va arriver, parce que remarquez qu'il y a les tourbillons de la vie avec les attaques et les moments difficiles, mais il y a les tourbillons de la vie aussi avec les grands moments d'exaltation. Et si on n'est pas préparé face à ces grands moments festifs, on peut aussi se perdre dans cette victoire. Alors Pierre avait la décision d'être humble ou être hautain, et en point numéro 9, être soumis ou être rebelle, ou initier la rébellion dans cette victoire. Commencer à penser que cette victoire, cette pêche miraculeuse, c'est quand même mon bateau, c'est quand même mon filet, c'est quand même moi qui l'ai jeté, c'est le filet, c'est quand même moi qui suis en train de rassembler les poissons. Donc je mérite une part de cette victoire. Pierre va tomber aux genoux de Jésus et va le proclamer comme le Seigneur, le maître de sa vie, celui qui a autorité sur lui. Alors, quelle sera ton attitude dans la victoire? Vas-tu être soumis dans la victoire ou vas-tu initier un processus de rébellion qui arrive malheureusement trop souvent de façon insidieuse? Toujours dans le verset 8, donc Simon tomba aux pieds de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, retire-toi de moi ». Pourquoi retire-toi de moi? Parce qu'il se sait inadéquat. Donc la victoire va soit susciter l'inadéquation, ça veut dire le sentiment d'être inadéquat, ou le sentiment de suffisance. Pierre a décidé de continuer à bien relativiser les choses, de continuer à bien voir les choses, comme quoi cette pêche, il n'en était aucunement un agent principal, il n'était aucunement une raison de cette pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse était la grâce et l'action de Jésus purement et simplement. Alors Pierre ne va pas être suffisant dans la victoire. Il va avoir ce sentiment d'humilité, ce sentiment de contrition, ce sentiment d'abaissement volontaire où il dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis inadéquat, parce que je suis pécheur. Retire-toi de moi parce que je ne suis pas méritant de voir cette grande grâce que tu répands sur moi, ou de connaître ou de vivre cette grande grâce que tu répands sur moi. Finalement, point 11, Pierre va dire, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. La victoire reste bonne et reste appropriée et reste profitable pour nous tant qu'on se rappelle qu'on est inapte à la grâce de Dieu. Pierre vient de recevoir une grosse bénédiction, la visite de Jésus. Le fait d'être utilisé par Jésus, et le fait que Jésus utilise sa barque, et de surcroît à ça, Pierre reçoit la bénédiction de cette pêche miraculeuse que Jésus pourvoit, que Jésus suscite pour eux et pour lui particulièrement. Et qu'est-ce que Pierre fait? Il tombe donc dans cet état de contrition, dans cet état de non-suffisance, d'inéquation par rapport à la victoire, et il se rappelle une chose importante: Seigneur, je suis un homme pécheur. Comme toi, comme moi. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs rachetés. Nous sommes des pécheurs graciés. Mais nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs qui avons été pardonnés. Et Pierre sait que dans cet état de pécheur, il ne méritait pas d'être aussi bien gâté, aussi bien dans le bon sens du terme gâté, aussi bien comblé de cadeaux et de grâces de la part de Dieu. Et nous aussi, malgré la victoire, on doit se rappeler qu'on est tout simplement des pécheurs gracié. Dans la pêche miraculeuse, Pierre ne s'enfle pas, ne s'emporte pas. Il y a bien des défauts qu'on peut trouver chez Pierre. Il y a bien des histoires où il se fracasse littéralement au sol, où il a des échecs terribles. Mais malgré tout, Pierre sait faire preuve d'humilité, notamment ici où il dit: Regarde, Seigneur, je ne suis pas digne que tu sois dans ma barque, un peu comme le maître qui va dire à Jésus qu'il a son serviteur qui est malade. Jésus s'apprête à aller chez lui et le maître lui dit: Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Aucun d'entre nous n'est digne d'une pêche miraculeuse. Aucun d'entre nous n'est digne d'être utilisé par Jésus pour une pêche miraculeuse. Quelle sera ton attitude? Quelle sera mon attitude lorsque je serai confronté à cette pêche miraculeuse? Est-ce que je me rappellerai que tout cela ne dépend pas de moi, mais dépend de Christ uniquement? Parce que moi, foncièrement, je ne suis qu'un pécheur inadéquat qui a été par grâce racheté et pardonné. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Point 1, on se doit de partager la bénédiction et les fruits. Point 2, dans le corps de Christ et dans la moisson et dans la pêche miraculeuse, il ne doit pas y avoir de clan ni de division. Point 3, on ne doit pas avoir peur de demander de l'aide à ceux qui nous entourent. Point 4, il nous faut savoir assister celui qui a besoin. C'est une chose de demander de l'aide et c'est autre chose d'avoir entendu qu'on nous appelle à demander de l'aide et d'avoir offert son aide. Donc, savoir assister celui qui a besoin dans le corps de Christ. Point numéro 5, collaborer dans la quête d'un toujours mieux. On aurait pu se limiter à une barque, on aurait pu faire rentrer des poissons dans une barque. Non, ils ont amené la deuxième barque pour que cette pêche soit encore plus bonnes, soient encore plus importantes, soient encore plus volumineuses. Donc, dans notre quête de travail, dans notre quête, ce ne doit pas être notre profit personnel, ce ne doit pas être notre stardom ou starship personnel, le fait qu'on devienne une étoile, entre guillemets, de l'Église, non. Notre objectif est d'être toujours plus efficace pour Christ, et la collaboration entre les frères et les sœurs amène à cette quête d'un toujours mieux. Point 6, on doit y aller même si on ne se sent pas à la hauteur. Les barques sont en train de couler, mais malgré tout, on ramène les filets et malgré tout, on remplit les barques, même si on ne se sent pas à la hauteur, même si on se sent inadéquat. S'arrêter aussi en point 7, s'arrêter pour compter les bienfaits de Dieu, savoir être reconnaissant et savoir admirer la grâce de Dieu. Point numéro 8, être humble dans la victoire. Serais-je humble ou serais-je hautain? Serais-je humble ou serais-je arrogant? Serais-je humble ou serais-je rempli de moi-même et admiratif par rapport à moi-même? Point numéro 9, être soumis dans la victoire. Au lieu que la victoire nous amène à une autonomie, nous amène à une indépendance, nous amène à penser qu'on est capable de faire les choses tout seul, non. Pierre est allé dans une attitude de soumission encore plus grande. La victoire a amené Pierre à être encore plus soumis à Dieu en le proclamant comme Seigneur. Point numéro 10, ne pas être suffisant dans la victoire. Se rappeler que lorsque Pierre va dire « Retire-toi de moi, je ne mérite pas que tu fasses ça, je ne mérite pas cette pêche miraculeuse, je ne mérite pas ta grâce aujourd'hui. » Donc, ne pas être suffisant dans la victoire. Savoir que la victoire va nous confronter avec notre inadéquation, notre insuffisance par rapport à la pêche miraculeuse ou notre sentiment de suffisance. Dieu m'a utilisé parce qu'il n'avait pas d'autre choix, parce que j'étais assez bon, parce que j'ai fait assez de sacrifices, parce que finalement, il ne pouvait pas passer autre de moi. Dieu peut effectivement se passer pleinement de nous, puisqu'il est capable de faire parler un âne, et il nous dit qu'il serait capable de faire parler des pierres si on se taisait. Donc, servir Dieu reste une grâce. Et dernier point, 11e point aujourd'hui, se rappeler, même dans la victoire, que nous ne sommes que des pécheurs graciés, que Christ est venu nous chercher sans qu'on ne mérite sa grâce. Il nous utilise sans qu'on ne mérite sa grâce. Il nous comble de victoire sans qu'on ne mérite encore sa grâce. Et pour l'éternité, nous serons en présence de notre Roi et de notre Seigneur sans que nous n'ayons, pour chacun d'entre nous, mérité d'être avec lui. Nous ne serons là que par grâce, uniquement par grâce, seulement par grâce et toujours par grâce. Alors voilà ce qui était le message d'aujourd'hui. On va prier, je sais qu'on a dépassé, j'avais 11 points ce matin. C'était un peu long, mais j'espère que vous avez tenu le coup et que vous avez été béni. Alors merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ces rappels, ces mises à l'ordre que tu nous donnes. Permets Seigneur que nos cœurs, même dans la victoire, ne tombent pas dans l'arrogance, dans l'orgueil, dans la suffisance, mais qu'on tombe plutôt Seigneur dans l'humilité, dans la soumission, dans la collaboration, dans la contrition de nos cœurs, sachant que pour toujours nous ne sommes inadéquats, si ce n'est à cause de ta grâce et de ta miséricorde. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, et qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors demain on continue notre étude sur la pêche miraculeuse, toujours à 8h30 demain matin. Et puis, quoi d'autre? Bon, l'inscription pour l'assemblée de dimanche est toujours disponible. Donc, vous nous écrivez par courriel ou vous nous contactez par téléphone au numéro de l'église et vous nous laissez un message. Donc, ça, c'est pour l'assemblée de dimanche. Sinon, pour ce soir, on vous rappelle qu'il y a possibilité d'assister en présentiel à l'étude biblique de ce soir qui sera donnée par le pasteur Sergio de 8h, de 19h à 20h, de 7h à 20h. Et puis, donc, vous pouvez vous pointer sans inscription le mercredi soir. On espère que ceux qui avaient l'habitude de venir jadis avant la pandémie seront présents ce soir et que de nouveaux visages même s'ajouteront à ceux-ci. Mais notre réunion reste disponible bien sûr à partir de 19h sur Internet comme c'est le cas depuis déjà pratiquement 18 mois. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une belle journée et on se retrouve demain matin ou ce soir pour l'étude biblique avec le pasteur Sergio. Au revoir tout le monde.